Quoiqu'elle ne soit pas très grande, la salle du conseil de la Maison Blanche est une pièce majestueuse. Avec sa moquette rouge vif ornée d'étoiles dorées, ses murs crème et ses appliques en forme d'aigle. Côté nord, des bustes en marbre de Washington et Franklin, de style classique, toisent le visiteur depuis leur niche de part et d'autre de la cheminée. Au centre de la pièce, une table ovale en acajou lustré, autour de laquelle sont disposés 20 gros fauteuils en cuir, une petite plaque en laiton fixée au dossier pour indiquer la place de chacun, le président, le vice-président et les divers membres du gouvernement. C'est un lieu propice aux plus sobres délibérations, conçu pour accueillir le poids de l'histoire. La plupart du temps, la lumière du jour entre à flot par les grandes portes-fenêtres qui donnent sur la roseraie. Mais le 25 septembre, au moment où je m'asseyais à la table autour de laquelle Bush nous avait conviés à la demande de McCain, le ciel était voilé. À mes côtés se trouvaient le président, le vice-président Cheney et McCain, Hank Paulson, Nancy Pelosi, Harry Reid, les chefs de file de l'opposition républicaine au Congrès, John Boehner et Mitch McConnell, ainsi que les présidents et les principaux membres des commissions concernées. Une horde d'assistants de la Maison-Blanche et du Congrès était assis derrière nous, tout autour de la pièce, prenant des notes et feuilletant d'épais dossiers. Personne n'avait l'air heureux d'être là. Le président, en tout cas, ne m'avait guère semblé enthousiaste la veille au téléphone. J'étais en désaccord avec à peu près toutes les décisions politiques de George W. Bush, mais j'avais appris à apprécier l'homme, dont la franchise désarmante et le sens de l'autodérision me plaisaient. « Je ne saurais pas vous dire pourquoi McCain pense que c'est une bonne idée », m'avait-il avoué presque sur un ton d'excuse. Il savait que Hank Paulson et moi étions déjà en communication deux ou trois fois par jour, et il m'a fait part de sa reconnaissance pour le rôle que j'avais joué en coulisses afin de rallier les démocrates du Congrès au projet TARP. « Ah, ça, je vous comprends. Si j'étais vous, Washington est le dernier endroit où je voudrais mettre les pieds », m'a dit Bush. « Mais c'est McCain qui me l'a demandé, et je ne peux pas dire non. Bon, avec un peu de chance, ça ne devrait pas durer trop longtemps. » Je n'apprendrai que par la suite que Paulson et le reste de l'équipe de Bush étaient contre cette réunion, et pour une bonne raison. Au cours des jours précédents, les dirigeants du Congrès avaient œuvré à trouver un terrain d'entente sur le projet TARP. Le matin même, le bruit avait commencé à circuler qu'ils étaient parvenus à un accord possible, mais les républicains de la Chambre des représentants allaient se rétracter à peine quelques heures plus tard. À ce stade sensible des négociations, les conseillers de Bush pensaient, à juste titre, que nous inclure dans le processus McCain et moi ferait plus de mal que de bien. Bush avait toutefois décidé de ne pas suivre l'avis de son équipe, et je ne pouvais pas le lui reprocher. Au vu des réticences grandissantes qui s'exprimaient au sein de son propre parti à l'égard du projet TARP, il ne pouvait pas risquer de se mettre à dos le candidat républicain désigné à la présidentielle. Il n'en reste pas moins que cette réunion avait les allures d'une vaste mise en scène. En regardant tous ces visages fermés autour de la table, j'ai compris que nous étions là non pas dans l'optique d'une négociation constructive, mais uniquement pour permettre au président d'accéder à la demande d'un homme. Bush a brièvement ouvert la réunion en lançant un appel à l'unité, puis il a passé la parole à Paulson, qui nous a informé des dernières évolutions du marché, avant d'expliquer que les fonds débloqués par la loi TARP seraient utilisés pour racheter aux banques des prêts hypothécaires à risque, des actifs toxiques, comme on les appelait, ce qui permettrait de rééquilibrer les comptes et de restaurer la confiance des marchés. « Si Hank et Ben pensent que ce plan va marcher », a déclaré Bush après cet exposé, « alors je suis pour. » Conformément au protocole, le président a ensuite donné la parole à la présidente de la Chambre des représentants, Nancy Pelosi. Mais celle-ci a poliment informé le président que les démocrates souhaitaient que je parle en premier, en leur nom. C'était Nancy et Harry qui avaient suggéré que je sois leur porte-parole dans cette réunion. Et je leur en étais reconnaissant. Cela permettrait non seulement d'empêcher McCain de me prendre de court au moment des délibérations, mais aussi de signifier aux démocrates que leur destin politique était indissociable du mien. Cette manœuvre a semblé désarçonner les républicains, et j'ai vu le président adresser à Nancy l'un de ses fameux petits sourires en coin, le politicien roué qu'il était savait reconnaître un coup habile quand il en voyait un, avant de hocher la tête dans ma direction pour me donner la parole. J'ai parlé pendant plusieurs minutes de la nature de la crise, des détails de la législation qui s'esquissait et de certaines questions qu'il restait à régler aux yeux des démocrates, telles que les mécanismes de surveillance, la rémunération des cadres dirigeants des organismes financiers et l'allègement de la dette pour les propriétaires. Rappelant que le sénateur McCain et moi-même étions tous deux publiquement engagés à laisser de côté le petit jeu des tactiques politiciennes pour concentrer nos efforts sur le plan de sauvetage financier, j'ai dit au président que les démocrates apporteraient leur part des voix nécessaires pour que le texte soit voté. Toutefois, ai-je aussitôt prévenu, s'il s'avérait, comme on l'entendait dire ici et là, que certains républicains avaient l'intention de se rétracter pour tout reprendre depuis le début et proposer un nouveau projet entièrement revu, cela mettrait inévitablement un coup d'arrêt aux négociations et les conséquences seraient très graves. Bush s'est alors tourné vers McCain. « John, puisque Barack a eu l'occasion de s'exprimer, je crois que c'est la moindre des choses que je te passe la parole tout de suite. » Tout le monde a regardé McCain, qui a serré la mâchoire. À l'espace d'un instant, il a eu l'air sur le point de dire quelque chose, puis il s'est ravisé et s'est mis à remuer nerveusement dans son fauteuil. « Je pense que je vais attendre mon tour », a-t-il fini par dire. Il y a des moments dans un combat électoral, comme dans la vie, où tous les chemins possibles qui s'ouvraient à vous se ferment soudain, à l'exception d'un seul. Des moments où le large éventail de probabilités qui semblait se déployer se réduit à une seule issue, inévitable. J'étais en train de vivre l'un de ces moments. Bush a regardé McCain en levant un sourcil, puis il a haussé les épaules et passé la parole à John Boehner. Ce dernier a dit qu'il ne s'agissait pas de tout reprendre de zéro, mais qu'il souhaitait simplement apporter quelques amendements au projet, notamment un dispositif qu'il a eu un certain mal à nous expliquer, visant à permettre au gouvernement fédéral de couvrir les pertes des banques plutôt que de racheter leurs actifs. J'ai demandé à Paulson s'il avait examiné cette proposition républicaine et s'il était en mesure de déterminer si un tel dispositif d'assurance pourrait marcher. « Oui », a répondu Paulson d'une voix ferme. « Il l'avait examiné, et non, ça ne marcherait pas. » Richard Shelby, le vice-président de la commission bancaire du Sénat, est intervenu pour dire que, selon plusieurs économistes avec qui il s'était entretenu, la loi TARP ne fonctionnerait pas. Il suggérait que la Maison-Blanche accorde plus de temps au Congrès pour examiner toutes ses options. Bush l'a interrompu. « Le pays n'avait plus le temps », a-t-il dit. À mesure que la discussion avançait, il était de plus en plus évident qu'aucun des chefs de file républicains ne connaissait réellement la teneur de la dernière version en date du projet de loi, ni en quoi consistaient exactement les amendements qu'ils proposaient eux-mêmes, du reste. Ils essayaient simplement de trouver un moyen de se défiler devant un vote difficile. Après avoir écouté les arguties des uns et des autres pendant plusieurs minutes, je suis de nouveau intervenu. « Monsieur le Président, j'aimerais quand même entendre ce que le sénateur McCain a à dire. » À nouveau, tout le monde s'est tourné vers McCain. Cette fois, il a consulté une petite fiche qu'il tenait à la main. Puis il a murmuré quelque chose que je n'ai pas entendu, et ensuite il a débité des platitudes pendant 2 ou 3 minutes. Les discussions semblaient en bonne voie, et il était important de laisser du temps à Boehner pour convaincre son groupe parlementaire de voter en faveur du projet. Et c'est tout. Pas de plan, pas de stratégie, pas même le moindre début de commencement d'une idée pour concilier les divergences de point de vue. Le silence était total dans la pièce quand McCain a reposé sa fiche, les yeux baissés, comme un joueur de baseball qui sait que son coup de batte n'a même pas effleuré la balle. J'avais presque pitié de lui. Le fait que son équipe l'ait encouragé à prendre une initiative aussi audacieuse, puis envoyé à cette réunion sans aucune préparation, était une véritable faute professionnelle politique. Quand la presse apprendrait comment il s'était comporté ce jour-là, les critiques ne seraient pas tendres. Dans l'immédiat, cependant, le principal effet de l'attitude incompréhensible de John a été de déclencher une foire d'empoigne dans la salle du Conseil. Nancy et Spencer Bacchus, le vice-président républicain de la Commission des services financiers à la Chambre des représentants, auraient bien aimé qu'on leur dise à qui revenait le mérite d'avoir renforcé les dispositifs de protection des contribuables dans la version la plus récente du texte. Barney Frank, le représentant démocrate du Massachusetts, à l'esprit vif et à la dent dure, qui connaissait ses dossiers et avait probablement œuvré plus que quiconque pour aider Paulson à faire passer la loi TARP, s'est mis à provoquer les républicains en criant « Quel est votre plan ? Quel est votre plan ?» Les visages devenaient cramoisis, le ton montait, tout le monde parlait en même temps. Et pendant tout ce temps-là, McCain restait muet, vissé dans son fauteuil, l'air rongé par l'angoisse. La situation a tellement dégénéré que le président Bush a fini par se lever. « J'ai manifestement perdu le contrôle de cette réunion », a-t-il dit. « Nous avons terminé. » Sur ce, il a tourné les talons et il est sorti d'un pas vif par la porte sud de la salle du conseil. Toute cette scène m'a laissé complètement abasourdi. Tandis que McCain et les chefs de file républicains quittaient la pièce en toute hâte, j'ai réuni Nancy, Harry et le reste de la délégation démocrate dans la pièce adjacente, la salle Roosevelt. Ils étaient dans tous leurs états, et comme nous avions déjà décidé que je ne ferais aucune déclaration à la presse à l'issue de la réunion, je voulais m'assurer qu'aucun d'entre eux ne dise quoi que ce soit qui pourrait aggraver encore la situation. Nous étions en train de discuter de la façon dont il pourrait résumer notre entrevue de manière constructive, quand Paulson est entré dans la salle, l'air totalement dévasté. Plusieurs de mes collègues ont commencé à lui faire signe de déguerpir, comme un gamin impopulaire dans la cour de récré. Certains l'ont même hué. « Nancy, » a dit Paulson en s'approchant de la présidente de la Chambre des représentants qu'il dépassait de deux têtes. « Je vous en prie. » Puis, dans un geste inspiré et un peu pathétique où se mêlaient l'humour et le désespoir, du haut de son mètre 98 et de ses 62 ans, il s'est baissé pour poser un genou à terre. « Je vous en supplie, ne faites pas tout capoter. » Nancy s'est laissée aller à esquisser un sourire. « Hank, » a-t-elle dit, « je ne savais pas que vous étiez catholique. » Puis son sourire s'est effacé, et elle a rajouté d'un ton sec, « Au cas où vous n'auriez pas remarqué, ce n'est pas nous qui faisons tout capoter. » Je dois reconnaître que Paulson a eu du cran. Il s'est relevé, puis il est resté plusieurs minutes debout devant les démocrates qui le conspuaient et passaient leurs nerfs sur lui. Quand ils ont fini par quitter la pièce pour aller se présenter au micro des journalistes, tout le monde s'était calmé et mis d'accord pour essayer de livrer le compte-rendu de la réunion le plus consensuel possible. Hank et moi sommes convenus de nous reparler un peu plus tard dans la soirée. En sortant de la Maison Blanche, j'ai appelé Plouffe. « Alors, comment ça s'est passé ?» m'a-t-il demandé. J'ai réfléchi une seconde. « Pour nous, pas mal, » ai-je répondu. « Mais après ce que je viens de voir, on a intérêt à gagner cette élection. Sinon, le pays est foutu. » Je ne suis pas d'un naturel superstitieux. Je n'avais pas de chiffre porte-bonheur quand j'étais petit, ni de pattes de lapin. Je ne croyais pas aux fantômes ou aux farfadets, et s'il pouvait m'arriver de faire un vœu en soufflant mes bougies d'anniversaire ou de jeter une pièce dans une fontaine, ma mère avait toujours bien pris soin de me rappeler que, pour voir ses vœux se réaliser, le moyen le plus sûr était de travailler. Pendant la campagne, toutefois, j'ai fait quelques concessions au monde des esprits. Un jour, dans l'Iowa, par exemple, un gros type barbu, habillé en biker et couvert de tatouages, s'est approché de moi après un meeting et m'a glissé quelque chose dans la main. C'était son jeton de poker fétiche, m'a-t-il expliqué. Il ne lui avait jamais fait défaut à Las Vegas. Il tenait à me l'offrir. Une semaine plus tard, dans le New Hampshire, une jeune fille aveugle m'a tendu un petit cœur en verre rose. Dans l'Ohio, c'est un crucifix argenté que m'a donné une religieuse avec un sourire irrésistible et un visage raviné comme un noyau de pêche. Ma collection de talismans s'est offert régulièrement. Un Bouddha miniature, un marron de l'Ohio, un trèfle à quatre feuilles plastifié, une petite statuette en bronze du dieu singe Hanuman et toutes sortes d'anges, de rosaires, de cristaux et de pierres. Tous les matins, j'avais pris l'habitude d'en choisir cinq ou six et de les glisser dans ma poche. Et j'essayais de me rappeler plus ou moins consciemment lesquels j'avais sur moi lors de telle ou telle journée particulièrement heureuse. Si mes menus trésors secrets ne me donnaient aucune garantie que l'univers penche en ma faveur, je me disais que ça ne pouvait pas faire de mal. Je me sentais rassuré chaque fois que je les faisais rouler dans ma paume ou que je les sentais bouger au fond de ma poche dès que je me déplaçais. Chacun de ces porte-bonheurs était un souvenir tactile de tous les gens que j'avais rencontrés, un témoignage trivial mais concret des attentes et des espoirs qu'ils m'avaient confiés. J'ai également commencé à adopter certains rituels les jours de débat. La matinée était toujours consacrée à une dernière révision de la stratégie et des arguments clés, le début d'après-midi à faire campagne. Mais à partir de 16 heures, j'exigeais que mon planning soit entièrement libre. Pour évacuer l'excès d'adrénaline, je faisais un peu d'exercice. Puis 90 minutes avant de partir rejoindre la salle où aurait lieu le débat, je me rasais, je prenais une longue douche brûlante, puis j'enfilais des habits neufs, chemise blanche et cravate bleue ou rouge, que Reggie avait suspendu dans la penderie de la chambre d'hôtel à côté de mon costume bleu repassé de frais. Un dîner rapide et consistant, steak cuit à point, purée ou pommes de terre sautées, brocoli à la vapeur. Et pendant une demi-heure environ avant le début de la soirée, tout en revoyant mes notes une dernière fois, je mettais des écouteurs où j'allumais une petite enceinte portable et j'écoutais de la musique. J'ai fini par devenir un tout petit peu maniaque sur le choix des chansons. Surtout des standards du jazz au début. Freddie Freeloader de Miles Davis, My Favorite Things de John Coltrane, Luck Be a Lady de Frank Sinatra. Avant un débat pendant les primaires, je crois que j'ai écouté ce titre deux ou trois fois de suite. Et cette invocation à la chance, Luck, trahissait à l'évidence un manque de confiance de ma part. Pour finir, je me suis aperçu que c'était le rap qui me convenait le mieux dans ces moments-là, et deux chansons en particulier. My First Song de Jay-Z et Lose Yourself d'Eminem. Dans l'une comme dans l'autre, Il était question de braver le destin et de prendre tous les risques. Écoute, si tu avais une chance, une seule occasion, d'obtenir d'un seul coup tout ce que tu as jamais désiré, est-ce que tu la saisirais ou est-ce que tu la laisserais filer? De ce qu'on ressentait quand on arrivait à créer quelque chose en partant de rien, de tracer son chemin grâce à sa jugeote, sa roublardise et sa peur déguisée en audace. Ces paroles semblaient taillées sur mesure pour l'outsider que j'étais au début de la campagne. Assis seul à l'arrière du van du Secret Service qui m'emmenait vers la salle du débat, dans mon impeccable uniforme de candidat, ma cravate avec sa petite fossette bien nouée autour du cou, je hochais la tête en rythme, traversé par une bouffée de rébellion intime, l'impression d'être connecté à quelque chose de plus cru et de plus réel que tout le tapage et toute la déférence qui m'entouraient désormais en permanence. C'était une façon de faire tomber les artifices et de me rappeler qui j'étais. Avant mon premier débat avec John McCain, fin septembre 2008, j'ai suivi mon petit rituel à la lettre. J'ai mangé mon steak, écouté ma musique, senti mes porte-bonheur peser au fond de ma poche au moment d'entrer en scène. Mais honnêtement, cette fois je n'avais pas vraiment besoin d'en appeler à la chance. Quand je suis arrivé sur le campus de l'Université du Mississippi, là où, moins d'un demi-siècle auparavant, un étudiant noir du nom de James Meredith avait eu besoin d'une autorisation de la Cour suprême et de la protection de 500 agents de la police fédérale simplement pour pénétrer dans les lieux, je n'étais plus l'outsider. Désormais, c'était moi qui avais tout à perdre. Comme prévu, la presse avait été impitoyable avec McCain après le fiasco de la réunion à la Maison-Blanche. Et ses problèmes s'étaient encore aggravés quand sa campagne avait annoncé, quelques heures avant le débat, qu'il avait finalement décidé, au vu des progrès accomplis grâce à son intervention dans les négociations parlementaires sur le projet de loi TARP, de lever la suspension qu'il s'était imposée à lui-même et de participer au débat. Nous avions décidé pour notre part d'y participer quoi qu'il arrive, même si je devais me retrouver seul sur scène pour une sympathique conversation retransmise en direct à la télé en face à face avec le modérateur du débat, Jim Lehrer. Les journalistes ont pris cette nouvelle pirouette de McCain pour ce qu'elle était, un repli en catastrophe après un coup de bluff complètement raté. Le débat en lui-même s'est déroulé sans grande surprise. McCain est apparu détendu sur scène, débitant les slogans de sa campagne en y ajoutant une pincée d'orthodoxie républicaine, le tout avec une bonne dose d'humour et de charme. Mais sa connaissance pour le moins parcellaire des détails de la crise financière et son incapacité à répondre quand on lui demandait comment il comptait la résoudre sont devenues de plus en plus flagrantes au fil de la confrontation. De mon côté, je jouais sur du velours. Aucun doute, mon entraînement intensif sous la férule des sergents-instructeurs Klein et Donilon avait été payant. Et si je m'efforçais instinctivement de ne pas céder à la tentation de placer quelques formules répétées à l'avance, les gens devant leur écran et les analystes politiques étaient manifestement séduits par mes réponses préparées, sans compter que j'avais appris à ne plus me perdre en digression. Mais surtout, mon humeur, lors de ce premier débat avec McCain, avait sensiblement changé. Contrairement à ce qui s'était passé pendant les primaires face à Hillary et aux autres candidats à la nomination démocrate, où j'avais eu l'impression de participer à une grande mise en scène élaborée, dont le seul enjeu était de couper les cheveux en quatre et de nous distinguer les uns des autres par de simples détails de style, cette fois, les différences entre mon adversaire et moi étaient réelles et profondes. Le choix que les gens allaient faire entre McCain et moi aurait un impact sur les décennies à venir et des conséquences pour des millions de personnes. Confiant dans ma maîtrise des faits et convaincu que mes idées avaient de meilleures chances que celles de John de répondre aux défis auxquels le pays faisait face, je me sentais galvanisé par nos échanges et j'ai presque éprouvé du plaisir à débattre sur scène avec lui pendant ces 90 minutes. Les réactions à chaud recueillies auprès des électeurs indécis à la fin de la soirée me donnaient gagnant avec une belle longueur d'avance. Tout le monde était fou de joie dans mon équipe, se congratulait à tout va, se tapait dans la main et poussait sans doute de gros soupirs de soulagement à part soi. Michelle était heureuse, mais moins démonstrative. Elle détestait assister au débat. Devoir rester assise là, l'air sereine, indifférente à tous les propos qu'on pouvait tenir sur mon compte ou à mes bourdes, le ventre noué, c'était comme se faire arracher une dent sans anesthésie, comme elle disait. Au demeurant, soit par crainte de me porter la poisse, soit à cause des sentiments ambivalents que lui inspirait la possibilité de ma victoire, en général, elle évitait de me parler de l'aspect compétitif de la campagne. Aussi, et j'étais passablement surpris, un peu plus tard ce soir-là, alors que nous étions couchés, quand elle s'est tournée vers moi et qu'elle m'a dit « Tu vas gagner, n'est-ce pas ?»« Il peut se passer encore beaucoup de choses, mais oui, je crois qu'il y a de fortes chances. » J'ai regardé ma femme. Elle semblait pensive, comme si elle essayait de résoudre une énigme. Enfin, elle a hoché la tête pour elle-même et elle m'a rendu mon regard. « Tu vas gagner », m'a-t-elle dit d'une voix douce. Puis elle m'a embrassé sur la joue. Elle a éteint sa lampe de chevet et elle a remonté la couverture sur ses épaules.